Voilà, pour cette deuxième conférence, nous allons entrer dans une partie plus difficile à contempler, mais importante cependant, la scène de l'agonie de Jésus, après avoir contemplé son amour et contemplé brièvement son cœur eucharistique. Nous allons contempler ce cœur broyé pour nos péchés. Un thème assez connu, mais qu'il faut avoir en tête lorsqu'on aborde le mystère de l'agonie, c'est de soutenir notre regard difficile sur l'agonie, de le soutenir par un autre regard qui est celui de la transfiguration. Alors, sans doute, l'aviez-vous déjà remarqué, c'est un petit cadeau du bon Dieu d'avoir fait ce rapprochement entre la transfiguration et l'agonie, puisque les deux scènes, très clairement, dans l'évangile sont liés. Je ne sais pas si vous avez la scène de la transfiguration en tête. Jésus monte sur une colline, le mont Tabor, selon la tradition, même si ce n'est pas désigné dans la Bible. Et de même, à l'agonie, Jésus monte sur une colline, le mont des Oliviers. Jésus est accompagné uniquement de trois disciples, de trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, à la transfiguration, laissant les autres de côté, il se rapproche de ses amis. Et là, le thème de l'amitié va compter beaucoup, tant pour la transfiguration et l'agonie, ce choix privilégié de Jésus pour certains, qui ne doit surtout pas nous choquer, bien entendu. Hein. Dieu aime tout le monde, mais il est tout à fait légitime qu'il choisisse d'en aimer certains plus que d'autres. C'est injuste. Non, ce n'est pas injuste. Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Vous voyez, quand Jésus donne ce qu'il veut à tous, dans la mesure où, tant qu'il donne à tous le salut éternel, les grâces nécessaires pour faire ce salut, tant qu'il propose à tous son amitié, il ne doit pas du tout nous choquer que certaines âmes, il les préfère. Et je crois que la Vierge Marie a été préférée. Ça veut dire qu'elle a bénéficié d'un amour supérieur de toute éternité, dans le livre de la sagesse, elle a été préparée, et la seule à avoir été rachetée en avance. Marie a été rachetée, attention, hein. Si elle est l'Immaculée Conception, c'est grâce à la croix de Jésus. Elle est sauvée par Jésus, mais en avance, dans le plan divin. Et aujourd'hui, elle est la plus haute de toutes les créatures, au-dessus des anges et des hommes. Et puis, dans l'Évangile, on voit que Jésus a une faveur particulière pour tel ou tel. On voit quelle attention il prête à chacun. Et trois de ses apôtres en particulier, Pierre, Jacques et Jean, leur fait partager, il communie avec eux dans certains des moments particuliers de sa vie, les moments où il cherche l'amitié. Et il le dira, hein, il cherche l'amitié. En tout cas, Pascal le traduira ainsi au moment de l'agonie. Voilà, donc Pierre, Jacques et Jean, dans les deux scènes, sont les seuls à voir cela. Dans les deux scènes, il nous est dit que Jésus prie. C'est assez intéressant, hein, parce que ce sont, à la transfiguration et à l'agonie, un peu les deux états de la prière. On a des prières qui sont tout à fait transfigurantes, où « Ah, qu'il nous est bon, Seigneur, d'être ici !» Comme Saint Pierre, on est là et la prière va toute seule, et c'est bon, et c'est bien. Deo gratias. Certaines de nos prières sont tout à fait sensibles, et ça arrive. Et puis il y a des prières beaucoup plus laborieuses, des prières dans lesquelles on ne voit pas Dieu, dans lesquelles on se sent un peu tout seul, et c'est des prières d'agonie. Je crois que Jésus a voulu, vous voyez dans les évangiles, hein, Jésus prie, le mot est dit, a voulu expérimenter ces deux sortes de prières, celles qui nous arrivent sans doute à nous un peu tout le temps. Et puis dans les deux scènes, alors c'est pas très connu pour le coup, parce que dans la liturgie, nous lisons le passage de la Transfiguration, mais pas le passage de Saint-Luc. Nous lisons, il me semble, celui de Saint-Matthieu, à vérifier. Hein. En tout cas, pas Saint-Luc. Or, Saint-Luc nous dit, curieusement, un verset dans lequel il nous dit que Pendant la transfiguration, au moment où le Christ est transfiguré, les apôtres ont les yeux appesantis de sommeil. C'est très curieux. Tant ils devraient être tout ébahis et tout émerveillés. Il y a un mystère là. Un mystère à creuser. Je vais pas. Mais il y a en tout cas une volonté de mettre un petit indice pour lier la transfiguration et l'agonie durant laquelle Pierre, Jacques et Jean s'endorment, véritablement. On pourrait dire que c'est un peu notre incapacité à vivre les moments surnaturels, certaines indifférences, tant dans les moments les plus glorieux, les plus riches spirituellement de notre vie, où finalement on ne les vit qu'à moitié, bien souvent. Et aussitôt, voilà, les plus grandes grâces que l'on reçoit, on les voit, ces grâces, on dit merci, mais on évite de passer ailleurs. Voilà, une certaine indifférence. Et puis, notre indifférence encore plus dans les moments de douleur, notamment dans le péché. C'est ça l'endormissement, c'est l'indifférence de l'âme, c'est la somnolence de l'âme. On n'est pas éveillé, on n'est pas attentif. Voilà. Donc c'est assez curieux que ce même détail soit repris dans les deux scènes. Voilà, donc autant d'éléments qui nous permettent de faire un lien entre ces deux moments et la première explication qui est la plus simple, c'est que Jésus a voulu préparer ses apôtres. Il a voulu préparer ses apôtres à la scène de l'agonie, à ce moment où les apôtres, les trois, le verraient dans sa plus pure humanité, broyé, écrasé sous le poids de la misère et du péché, en disant « tenez bon avec moi parce que vous m'avez vu transfiguré quelques semaines, quelques mois avant. Faites le lien entre les deux. Ne m'abandonnez pas. C'est toujours moi, je suis toujours là. Je suis toujours là, je suis toujours Dieu. Même si ça ne se voit pas. » Hélas, c'est ça, très, très, très curieux, enfin très, très intéressant, ça. Jésus avait beau avoir tout préparé, ça n'a pas fonctionné, clairement. Ça n'a pas fonctionné, les apôtres s'endorment à l'agonie, et si on va un peu plus loin, Pierre renie le Christ. Pierre qui avait reçu toutes les faveurs, qui avait peut-être vu plus que les autres, je ne le connais pas. Ça nous montre une certaine patience infinie du bon Dieu qui dispose des grâces dans nos vies, mais bon, si on en rate une, si on en rate deux, si on les rate toutes, il en restera toujours une à la fin. Et c'est la réconciliation et le pardon de Pierre m'aimes-tu après la résurrection. Cette patience de Dieu pour les apôtres. Donc la première idée, elle est là. Cette mise en parallèle pour les apôtres. La deuxième, je pense que c'est une richesse pour nous, une richesse spirituelle pour nous, de nous dire que nous aussi, nous traversons des transfigurations, nous aussi, nous traversons des agonies. Cette transfiguration, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la transfiguration? Sans entrer dans l'explication théologique, Jésus c'est la personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui a une nature divine et une nature humaine. Nature divine est incarnée, c'est-à-dire qu'elle est dans la chair, et elle est comme cachée, on pourrait dire. Maritain donne une image, il parle d'une certaine membrane, une certaine distance, qui sépare, mais qui entre les deux natures. Et habituellement, c'est la nature humaine qui transparaît, qui est vue, et Jésus a des réactions humaines, alors tout à fait particulière aussi, vous savez, Jésus même en tant qu'homme, c'est un mystère assez incroyable. Et sa nature divine est là, elle apparaît à certains moments, et à la transfiguration, c'est comme si la divinité franchissait le mur de son humanité, un peu comme un rayon de soleil qui déchire les nuages et qui jaillit. Ainsi, à travers l'humanité, on perçoit la divinité. C'est ça, la transfiguration. Eh bien, dans nos vies, ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'à travers l'épais manteau de nos vies banales, et de notre humanité, et de ce monde visible et sensible, Dieu se montre. Dieu se montre dans nos vies par des grâces, par des moments, par des événements, par des rencontres, par l'Eucharistie, par une grâce intérieure, une lumière, un élan, où là on peut vraiment se dire « Dieu est intervenu, j'ai reçu une grâce de Dieu ». Je pense que c'est des choses qui, je l'espère, arrivent dans vos vies. En tout cas, plus on y est attentif, plus je crois on peut le percevoir, Dieu est là, et à certains moments ça rejaillit, on peut vraiment se dire, c'est un peu « Bon, Dieu m'a accompagné, on le sent bien, on le voit ». Et puis il y a des moments d'agonie, où à l'inverse, la divinité semble totalement absente, enfouie, elle n'est pas, on va le voir, elle n'est pas partie, mais elle ne transparaît plus du tout. C'est l'obscurité la plus totale. C'est nos moments d'épreuve, de difficulté, d'angoisse, de péché, mais aussi de toutes ces épreuves humaines, de solitude, où on a beau crier vers le ciel, Dieu semble absent. Notre image était celle de la tempête sur la barque où Jésus est endormi et les apôtres sont en pleine tempête et alors semble que tout est fini. Ils se tournent vers Jésus et ils disent même pas « Jésus, sauve-nous !»« Seigneur, Seigneur, nous périssons !» C'est un fait. Ouais, on est fichu. On est fichu. Et Jésus dormait. Jésus dormait. Et pourtant, homme de peu de foi. Vous voyez, parce que Jésus endormi et tout aussi puissant que Jésus éveillé, et tant qu'il est là, ça va. Simplement pour nous, c'est difficile, parce que la présence de Dieu, on veut l'expérimenter, on veut des signes. On attend de Jésus qu'il se manifeste à nous, et bien parfois, il nous laisse dans l'obscurité de la nuit de la foi, et on traverse ça. Et la plus grande partie de notre vie, ce sera l'obscurité de la foi. Le régime normal de la vie chrétienne, c'est de ne pas voir. C'est de ne pas voir. Parfois, on voit. Et accrochons-nous à ces moments où on a peut-être entrevu un peu mieux que Dieu était là, parce que la plupart du temps, on sera dans l'obscurité. Et ce n'est pas un mal en soi. C'est ainsi que fonctionne la vie de la foi. La résurrection, vous verrez, ce parallèle. Saint Thomas qui refuse de croire, alors Jésus est bon et se met un peu à son niveau. Et donc, touche-moi. Touche-moi pour croire. Et Saint Thomas met sa main dans le côté de Jésus. Voilà, ce sont ces grâces du débutant, en quelque sorte, de celui où Jésus se met au niveau et se manifeste tout spécialement à nos âmes au début de la vie spirituelle ou à certains moments où on en a vraiment, vraiment besoin. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de contact. La vie normale de la foi, c'est de croire sans voir, justement. C'est de croire sans sentir. Attention, évidemment, il y a des moments dans la vie où on sent Dieu, mais il y a des moments où on ne le sent pas. Et c'est plutôt normal, puisque Dieu est esprit. Et il nous demande de ne pas croire à partir des miracles et des expériences qu'on a pu avoir de lui, mais à partir de sa parole et de la confiance qu'on a en lui. Et c'est Marie-Madeleine. Et c'est Marie-Madeleine qui a touché Jésus tout au long de sa vie. À chaque fois que Marie-Madeleine est auprès de Jésus, elle le touche. Elle touche les pieds, elle lui lave les pieds, elle met ses cheveux sur ses pieds, elle pleure sur ses pieds. Il y a un contact permanent durant toute cette première partie de vie, durant toute cette conversion de Marie-Madeleine. Et puis à la résurrection, nos limites étant gérées, ne me touche pas. Parole dure. Et qui dit, le mérite de la foi, il est là. Le mérite de la foi, c'est de croire sans toucher. Et nous, il y a bien beaucoup de moments où on ne touche pas. On est dans la nuit et Jésus est là. Et ce qu'il faut réveiller en nous, c'est la foi. La foi est peut-être le souvenir des transfigurations, en effet, que Jésus a miséricordieusement laissé dans nos vies des consolations pour nous rappeler qu'il est là. Qu'il est là tout simplement et nous aider à... Pourquoi Jésus nous met dans l'épreuve parfois? C'est parce que attention, voilà, ce qu'il faut, il faut aimer, comme disait Sainte Catherine de Sienne, je crois, aimer le Dieu des consolations et non pas les consolations de Dieu. Qu'est-ce qu'on aime dans la prière? Qu'est-ce qu'on va rechercher dans la prière? Est-ce que c'est ah, ben il nous est bon d'être ici, Seigneur, mais Saint-Pierre, avec toute son honnêteté, et c'est spontané, mais c'est exactement ça. Il est content d'être à la Transfiguration parce que ça lui fait du bien. Il nous est bon d'être ici, Seigneur. Il se passe une scène extraordinaire, et lui, il donne un peu son ressenti, quoi. Voilà, c'est Saint-Pierre. Et ben, est-ce qu'on va à la prière parce qu'il nous est bon d'être ici, Seigneur, ou est-ce qu'on va à la prière pour Jésus, pour être avec lui, pour l'aimer, pour son bien à lui, par fidélité avec lui, par esprit de religion aussi. Voilà, ces questions-là sont à mettre en avant au moment où on aborde la scène de l'agonie. Scène de l'agonie qui est une scène difficile, donc on va lire le passage de Matthieu 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, pas à tous, hein, il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Sans doute, hein, c'est adressé à Pierre dans ce moment-là qu'il a, il a en tête le reniement. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant ces mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voilà, celui qui me livre s'approche. » Curieusement, Saint Jean, ça c'est Saint Matthieu, hein. Saint Jean est le seul à ne pas mentionner l'agonie. Il y a une raison pour cela, on la verra demain. Parce qu'on fait souvent le parallèle entre l'agonie de Jésus, la détresse de Jésus, et puis le cri sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Et Saint Jean a une lecture tout à fait différente de la passion du Christ, c'est ce que je la garde pour demain. Cependant, en Saint Jean, on a un passage qui correspond assez exactement à cette agonie qui se passe avant le récit de la scène et le récit du chapitre 13, puisque c'est au chapitre 12, Jésus déclare « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Donc encore une fois, l'heure de Jésus. « Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et un peu plus loin, « Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Vous voyez, juste en passant, je n'y avais pas pensé, mais ça ressemble étrangement à cette voix de la Transfiguration aussi. Cette voix qui crie au moment où Jésus parle de cette détresse. Ça, c'est pour Saint Jean. Quelques détails pour rentrer dans cette scène de l'agonie. On reviendra sur la solitude de Jésus en quête d'amis et qui n'en a pas, en tout cas pas apparemment. La scène se passe dans un jardin, apprend-on. Et je crois qu'on peut facilement établir le parallèle entre Adam, le premier Adam qui pêche dans le jardin d'Éden, et le deuxième Adam, le nouvel Adam, Jésus, qui assume ce péché et tous les autres péchés qui suivront dans le jardin de Gethsémani. Des liens qui peuvent être faits, à mon avis. Ici, le Christ, nouvel Adam, c'est un thème très universel chez les pères de l'Église. De même que par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde, ça c'est Saint Paul. De même par un seul, la résurrection, etc. etc. Voilà. Le parallèle peut être fait. Jésus est en train de reprendre toute l'histoire de l'humanité, à commencer par Adam. Par Adam. Ce jardin, il existe encore. Ceux qui ont pu aller en Terre Sainte, ceux qui y iront un jour, je vous encourage à y aller. C'est quand même très bon pour la vie de foi et l'incarnation de notre vie de foi. On voit de l'autre côté de la vallée du Cédron, la pierre sur laquelle sans doute Jésus a traversé son agonie, et puis des oliviers, dont la tradition dit que certains ont peut-être vu l'agonie de Jésus. Bon, c'est une tradition, mais elle est respectable. Elle est respectable. Je lis juste un texte de Benoît XVI dans ce très beau livre « Jésus de Nazareth », si jamais vous avez un peu de temps et si vous voulez regarder la description de la passion dans le livre de Benoît XVI, je vous encourage à le faire, « Jésus de Nazareth ». Celui qui s'arrête en ce lieu, dit Benoît XVI, se trouve dans un sommet dramatique du mystère de notre Rédempteur. Ici, Jésus a fait l'expérience de la solitude ultime, de toute la tribulation d'être homme. Ici, l'abîme du péché et du mal, dans tous ses aspects, a pénétré dans les profondeurs de son âme. Ici, il a été frappé par le bouleversement de la mort imminente. Ici, le traître l'a embrassé. Ici, tous ses disciples l'ont abandonné. Ici, il a combattu seul pour moi. Un autre détail intéressant, c'est cette liturgie de l'agonie. Vous voyez, à trois reprises, c'est pas anodin ça, à trois reprises, Jésus s'éloigne pour prier. Et trois fois, il revient. Et dans ces trois fois, il est saisi d'angoisse. Dans le jardin de Gethsémani. Gethsémani, ça veut dire le pressoir pour l'huile. Gethsémani, c'est le jardin du pressoir. Et alors, il y avait des huiles dans les oliviers, et puis on les pressait pour en faire de l'huile d'olive. Voilà. Et dans la tradition juive, on presse les olives trois fois. Les deux, je ne suis pas un spécialiste de la pression des huiles, mais, parce que j'ai lu ça. Et il semblerait que les deux premières pressions, la tradition juive, sont pour faire de l'huile normale. Et puis on réserve une troisième pression, et l'huile issue de cette troisième pression, c'est l'huile qui va être réservée pour brûler dans les lampes du temple de Jérusalem. Et là, il y a quelque chose de significatif. Cette idée de l'huile qui brûle en permanence devant le sanctuaire, c'est une idée sacrificielle. Alors, je ne vais pas rentrer dans dada sur le sacrifice, mais l'idée de la comme l'encens, si vous voulez, comme l'encens, la consommation d'une matière pour en faire sortir quelque chose de plus noble, de même que le grain d'encens, pas grand-chose, mais en le brûlant, il donne cette fumée odorante qui monte, de même l'huile qui, en brûlant, donne cette flamme. Voilà. C'est une idée sacrificielle. Et on a ainsi évoqué cette idée que Jésus va être pressé comme l'huile pour délivrer à son Père l'hommage de son sacrifice. Parce que c'est ça, avant tout, la mort de Jésus, c'est le sacrifice parfait d'amour du Fils pour son Père. Avant tout, la croix, elle est pour Dieu, le Père. Elle est la réponse d'amour de Dieu le Fils qui, devant l'ingratitude des hommes et le péché des hommes qui refusent de louer Dieu et de lui rendre hommage, dit « Moi, je vais rendre à mon Père l'hommage ». Le sacrifice de la croix, c'est avant tout un sacrifice à la gloire de Dieu, d'amour, dans lequel nous, on s'unit, puisque c'est le seul sacrifice qui est agréable à Dieu. La messe, c'est avant tout le culte que Jésus rend à son Père, de glorification, d'hommage, par cet amour qui est prêt à aller jusqu'à la mort pour réconcilier les hommes avec Dieu, pour remplacer l'offense par le sacrifice. Et à ce culte, nous associons pour rendre hommage à Dieu. Voilà, donc là, l'idée est quand même assez forte dans cette pressoir de l'huile, et puis à presser tellement que saint Luc évoque dans la dernière scène une sueur de sang, jusqu'au corps lui-même, écrasé sous le poids du péché. Et puis, il y a ce mot, Jésus rentre en agonie. Attention, l'agonie au sens moderne peut décrire beaucoup de choses, et plutôt enfin, les derniers instants avant la mort, instants peut-être plus douloureux, de souffrance, on peut avoir une vision assez physique de l'agonie. Le sens ancien de l'agonie, c'est l'angoisse. Le sens ancien du mot agonie, c'est l'angoisse. On pourrait dire Jésus rentre dans l'angoisse. C'était la traduction du texte de tout à l'heure. C'est sur cette angoisse qu'on va essayer de réfléchir, parce qu'elle est très mystérieuse. Comment se fait-il qu'à ce moment précis, Jésus rentre dans l'angoisse? Juste avant, Jésus est dans une paix extraordinaire. Tout le chapitre de la scène, dans cette chaleur du cénacle, avec ses amis, dernière parole, une paix extraordinaire. Juste après, Jésus sera dans une paix extraordinaire. Vous verrez dans l'évangile de saint Jean, la stature, la façon dont Jésus gère les événements du début jusqu'à la fin. Dès les questions de ceux qui sont venus l'arrêter, c'est moi, et il s'écroule, et il domine. Je pourrais appeler 12 légions d'anges, je ne le ferai pas. Très important ça. Jésus domine. En réalité, Jésus domine de début jusqu'à la fin. Jésus n'est pas dépassé par les événements, par aucun. C'est très important parce que c'est ça qui donne à sa mort le caractère de sacrifice. La mort de Jésus n'est pas juste un meurtre où des gens ont attrapé Jésus, l'ont mis à mort et ça a plus. Non. Ce qui fait que la mort de Jésus est autre chose qu'un meurtre ou qu'un martyr, du coup, un meurtre du côté des bourreaux ou un martyr du côté de Jésus, c'est que Jésus a la maîtrise parfaite de la situation. Il le dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien à la mort de Jésus. Jésus domine toute la situation et il décide volontairement que cela soit. C'est lui qui livre sa vie. C'est lui qui livre sa vie au bourreau. Il pouvait très bien ne pas le faire. Jésus domine. Et c'est à cela qu'on voit l'amour. Pas juste, j'accepte cette épreuve ou j'accepte cette mort, comme le martyr qui accepte la mort aussi parce qu'il n'a pas le choix, entre guillemets. Attention, hein, c'est très beau un martyr. Hein. Mais c'est aussi parce qu'il n'a pas le choix. Il va mourir, alors autant l'accepter, bien sûr, et s'unir avec le Christ. Jésus a le choix. Enfin, il a le choix. Il a la puissance de changer les événements. Il ne le fait pas par obéissance à son Père pour accomplir la prophétie et parce qu'il le veut, tout simplement. C'est très important. Et donc Jésus a la maîtrise de la situation. Comment se fait-il qu'il soit à ce moment-là dépassé par l'angoisse, atterré par l'angoisse? C'est pas anodin, ça a beaucoup étonné. Peut-être que vous, ça ne vous étonne pas beaucoup. Mais ça a beaucoup étonné même les ennemis du christianisme, comme Cels, qui dit, si Jésus voulait tellement sauver les hommes, pourquoi dès lors exhale-t-il des plaintes et des gémissements et fait-il pour échapper à la mort cette sorte de prière, père si le calice pouvait s'éloigner. C'est un Cels, un ennemi du christianisme. Alors, plusieurs explications. La première, celle qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est la crainte des tourments qui approchent. C'est possible. Devant la mort si douloureuse, il faut se rappeler que Jésus a la science infuse. Ah non, si on regarde le mystère du Christ, il est comme nous, mais avec des choses particulières. Il a une science, d'abord il a la science de vision, qu'il voit Dieu, son Père. Il est dans la béatitude en permanence. Jésus comme homme voit Dieu. En même temps, il a une science de vision, une science infuse, la deuxième science de Jésus, qui lui permet de connaître tout ce que le Père veut lui faire connaître. Et puis, il a la science acquise comme nous. Bon, c'est le mystère du Christ. Hein. Mais en tout cas, on peut vraiment dire, sans exagérer, que Jésus sait très bien tout ce qu'il va lui arriver, d'une certaine manière. En tout cas, de science infuse. Il a une surcompréhension des événements, au moins ordinairement. Et donc, il peut mesurer ses souffrances, tout ce qu'il va endurer durant cette nuit, la trahison de ses amis, l'abandonnement, toute la souffrance morale, la souffrance physique, jusqu'où ça va aller. Donc on pourrait se dire, oui, il rentre en agonie par peur de la mort. Ce n'est pas une explication fausse en soi, tout à fait naturelle, qu'il y ait quelque chose en Jésus qui résiste. Attention, c'est toujours très délicat quand on aborde ces questions-là, mais qui est une sorte de... On a tous une inclination naturelle à rester en vie. Et Jésus, ce qu'on appelle le vouloir naturel, il l'a aussi. Et même en tant qu'homme, son vouloir en tant qu'homme, il veut faire ce que fait le Père, il y a un tiraillement. Un tiraillement en lui. Bon. Mais je ne pense pas que ça suffise à justifier l'agonie. D'abord parce que ça, Jésus le sait depuis le début. Il le dit. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Prenez ma croix. Encore dimanche dernier ou le dimanche d'avant, ici, le Fils de l'homme va être crucifié. Il va ressusciter. Il annonce tout ça. Tout au long de sa vie, plusieurs fois. Il sait très bien. Alors pourquoi à ce moment-là? Et puis surtout, n'est-ce pas lui le premier qui nous encourage à ne pas craindre la mort? Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut jeter votre âme dans la géhenne. Et puis enfin, là, quand on voit la façon dont le Saint-Esprit accompagne les martyrs, les imitateurs du Christ qui avancent vers des tourments avec un courage extraordinaire, une paix magnifique. Et comment est-ce que l'élève peut-il être plus paisible que le maître? Là, ça nous, on peut s'arrêter là, mais c'est insatisfaisant. Il y a plus. Il y a clairement plus. Pascal a, si jamais vous aviez un peu de temps dans ces deux semaines, après avoir lu tout ce que vous avez dit, là, Benoît XVI, écouter les enregistrements de l'abbé Sauvonnet, etc. Si vous avez le temps d'ouvrir Pascal et de lire Mystère de la Passion de Pascal, faites-le, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, je me suis un peu appuyé là-dessus. Et voilà ce que dit Jésus. Dans sa passion, donc c'est-à-dire après l'agonie, Jésus va souffrir les tourments que lui font les hommes. Il va volontairement se laisser faire par les hommes qui vont le flageller, qui vont le... etc. Mais dans l'agonie, il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. Et Pascal reprend un petit mot qu'on a vu tout à l'heure, au moment où Jésus est devant son ami Lazare qui est mort. Et l'Évangile nous dit « Jésus se trouble lui-même. Turbare se ipsum. » Jésus volontairement se trouble. Et je vous disais que Jésus n'est à la maîtrise de ses passions et c'est lui qui volontairement décide d'éprouver telle ou telle passion. Eh bien là, il y a de ça. Tourbare seipsum. Il souffre les tourments qu'il se donne à lui-même. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de passer vite, mais sans vous dire n'importe quoi. Il y aurait une idée très, très mauvaise, qui ne s'est pas du tout justifiée, ça serait de dire que Jésus a vraiment été abandonné par le Père. Et que vraiment, Jésus aurait senti de manière passive toute la détresse de l'abandon d'un Père qui rejette sur lui toute la colère qu'il a contre les hommes et contre le péché. C'est l'explication protestante, ça. D'un Dieu vengeur et de Jésus qui se dit, Jésus punching ball, qui accepte d'apaiser la colère de Dieu en laissant Dieu déverser tout son... c'est horrible comme vision, ça a été celle des protestants, elle est condamnée. Mais je pense que l'on peut dire, avec des auteurs qui sont tout à fait qualifiés, comme Feuillet, que l'on peut dire que Jésus a voulu se troubler lui-même, a voulu s'identifier à nous jusqu'à la fin. Ça nous ramène à ce que disait saint Jean, il les aima jusqu'à la fin. Jusqu'où est-il allé pour devenir l'un d'entre nous? Il y a une limite que Jésus ne peut absolument pas dépasser, c'est de pécher. Jésus ne peut pas pécher. Jésus ne peut pas aller jusqu'à pécher pour nous ressembler. Saint Paul, il a pris tout de nous, sauf le péché. En revanche, il a pris sur lui ce qu'il pouvait des conséquences du péché. L'idée de la croix, c'est d'accepter par amour de prendre la peine que nous encourions pour notre péché pour nous en libérer. Un peu comme si nous avions une dette immense à régler, impossible à régler, et Jésus décide de la régler lui-même. C'est ce qu'on appelle le rachat. Le rachat. Et c'est l'une des raisons pour laquelle sa mort est douloureuse, et sa mort, et que, enfin, surtout qu'il va jusqu'à la mort, puisque la peine du péché, c'est la douleur et la mort. Jésus prend sur lui la mort, qui est le prix du péché, il la prend par amour et il fait tout exploser. Il fait tout exploser parce que justement, il la prend par amour. Or, je pense que l'on peut dire que Jésus a voulu nous accompagner jusqu'au cœur de cette autre conséquence du péché, que l'on ne voit pas généralement, qui est d'être comme séparé de Dieu. Attention, tout de suite on se rattrape. Jésus n'est pas séparé de Dieu. Au moment, au cœur de la passion, Jésus est le bien-aimé du Père. Il y a une relation d'amour entre les deux. Mais souvenez-vous de cette membrane entre la partie humaine de Jésus et la partie divine de Jésus. Eh bien, il semblerait, une certaine mesure, avec beaucoup de prudence, que Jésus ait accepté de ne plus voir clairement qu'il était avec Dieu. Il faudrait mettre mille pincettes là-dedans. Je vais essayer de vous lire le passage, enfin, en tout cas c'est ce que dit Feuillet. Il semble qu'au cours de sa passion et à Gethsémani, Jésus ait volontairement expérimenté dans son humanité la détresse et la solitude des hommes séparés de Dieu par leur péché. Jésus souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Jésus a voulu librement expérimenter les conséquences du péché, la conscience de la communion avec le Père, de son unité, de l'amitié qu'il avait pour son Père, s'en est trouvé comme obscurci Et c'est dans la conscience humaine de Jésus qu'il y a toute une épaisseur, même chez nous, hein, de conscience de nous-mêmes, de conscience de la présence de Dieu en nous. Et bien là, il y a quelque chose qui, à l'inverse de la transfiguration où tout était extrêmement lumineux et où la présence de Dieu rejaillissait, là, tout devient plus noir. Dieu est toujours là, la vision est toujours là, mais c'est comme si une partie de Jésus, sa partie inférieure, sa partie la plus humaine, n'y avait plus accès. Jacques Maritain écrit « Quand Jésus dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est plus uni que jamais au Père. Mais dans l'épouvante et la sueur de sang, il fait l'expérience de l'abandon. Alors Jésus, dans son oraison, ne pouvait plus pénétrer avec sa conscience dans le paradis de son âme. Vous voyez, Jésus, c'est extraordinaire, quand il priait, il rentrait en lui-même, il voyait Dieu. Il se voyait lui-même, et il était avec Dieu, il avait la vision béatifique en lui-même. Jésus n'a jamais eu la foi. C'est une hérésie, ça, hein, pas une hérésie. En tout cas, c'est tout à fait suspect d'hérésie. Certains l'ont dit. Mais Jésus, en lui-même, est avec le Père, il rentre en lui, et c'est le ciel dans son âme. Eh bien, tout en restant comme cela, en lui, il semblerait que volontairement, il ait voulu obscurcir cela pour expérimenter, pour se rapprocher de nous dans cette détresse que nous ne ressentons pas. Et c'est ça, c'est pour ça que Jésus l'a fait, d'être séparé de Dieu. Pascal commence son récit de l'agonie en disant « Si tu connaissais tes péchés, tu perdrais cœur. » Or, qui de nous, après avoir offensé Dieu, réellement, se trouve dans l'état de Jésus à l'agonie? Personne. Nous, on fait des péchés, et parfois même des péchés graves, on continue à vivre. Et on continue à entretenir des amitiés, à faire d'autres choses, on n'y pense pas en permanence, hélas. Alors que, en réalité, dans le péché, l'image du péché, la vraie noirceur du péché, c'est l'attitude de Jésus au moment de l'agonie. C'est une détresse immense. Parce que celui qui était le seul qui pouvait combler notre cœur, celui pour qui nous étions faits, on l'a abandonné. On l'a abandonné. Dieu n'abandonne personne, mais nous l'avons abandonné. Et donc on vit l'abandonnement. Et je crois que Jésus a voulu vivre cette agonie pour racheter toutes ces fois où nous avons, ou en tout cas pour nous montrer ce que c'est que d'être séparé de Dieu. Et c'est vrai que c'est dur à regarder l'agonie, mais que si vous voulez savoir ce que c'est que le visage du péché, la vraie noirceur de l'âme, elle est dans la détresse de Jésus au moment de l'agonie. L'agonie est ainsi un signe tangible pour nous de ce que cause en notre âme la séparation d'avec Dieu, la détresse totale. C'est une deuxième explication qui est douloureuse, qui peut être riche, je pense, pour nous. C'est de mieux nous faire prendre conscience à quel point le péché est absurde et dans quel état ça devrait nous mettre, d'avoir tout perdu, sans avoir aucune possibilité de notre côté de tout retrouver, sinon qu'en comptant sur l'amour de Jésus. Le péché, c'est moche, c'est très très moche. Et Jésus a voulu l'imprimer en lui pour que nous le voyions en permanence. Si nous regardons la croix, voyons la laideur du péché. Un troisième aspect, c'est une dimension de cette passion de Jésus, cette agonie de Jésus, c'est que, c'est un peu différent de ce qu'on vient de dire, c'est que Jésus, dans sa science infuse, voit les péchés du monde entier. Ah, il voit tous les péchés passés, ça va. Enfin, ça va. Ils sont passés. Voilà. Surtout, il voit tous les péchés futurs. Quand peut-il y avoir encore des péchés après la croix de Jésus? Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Évidemment, maintenant on est habitué, hein. Mais pour les premiers chrétiens, C'est inimaginable qu'il y ait encore des péchés après la croix de Jésus. D'ailleurs, le premier péché qu'il y a raconté dans les Actes des Apôtres, vous irez voir, hein, Ananie, c'est tellement inimaginable que dans les Actes des Apôtres, ils ont volé un peu de l'argent de la communauté chrétienne et Saint-Pierre va leur dire « Vous avez fait ?» Et il meurt sur le coup. Vous irez voir, hein, c'est très surprenant. Il meurt sur le coup, on ne comprend pas. Bon, c'est mystérieux. Mais se dire que pécher après avoir vu le Christ mourir pour nous, c'est inimaginable pour les premiers chrétiens. Et nous, bah, voilà. On sait que c'est compliqué. C'est compliqué que cette rédemption de Jésus, il faut la recevoir, il faut qu'elle travaille en nous, et c'est tout le travail de la grâce, et que ça prend du temps, ça prend toute une vie. Ça prend toute une vie. Mais Jésus voit, au moment de son agonie, tous les péchés qui seront faits après tout l'amour qu'il a manifesté. Et il voit, parce qu'il a cette science infuse, tous ceux qui jusqu'au bout, résisteront à son acte d'amour. Et je pense que, c'est un autre auteur qui dit ça, que il y a une sorte de tentation à laquelle Jésus n'a pas succombé, hein, mais qui se manifeste par une vraie détresse, qui est est-ce que ça va marcher ? À quoi bon ? Tentation dans son rôle de Messie. Vous savez, c'est le démon dans les trois tentations qu'on a lues au début du carême, ce sont des tentations messianiques. C'est-à-dire qu'il tente vraiment Jésus, non pas parce qu'il a faim et que tout homme... Mais il le tente dans son rôle de Messie en essayant de le détourner de son rôle de Messie. Je ne vais pas me lancer là-dedans, mais c'est vraiment lié à la tentation messianique. Il est dit, après les trois tentations, que... ayant épuisé toute tentation, le diable s'éloigna jusqu'à l'occasion favorable. Et c'est l'agonie. L'agonie, c'est l'ultime tentation du démon qui cherche à décourager Jésus de faire son œuvre, notamment parce que, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ça va fonctionner ? Il faut vraiment s'imaginer, je crois que c'est assez juste, que Jésus est dans le noir. Une obscurité qu'il choisit volontairement de vivre pour la faire exploser, en quelque sorte. Pour la faire exploser. Il choisit de rentrer avec nous jusque dans la misère de l'obscurité de nos vies pour aboutir sur la résurrection. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que mon sacrifice va vraiment être agréable ? Je crois qu'il y a quelque chose là, dans cette agonie, qui est que Jésus, pendant un temps qu'il a voulu lui-même, avance sans tout voir, dans une certaine obscurité. Et je crois qu'il le fait pour nous, qu'il le fait pour tous ces moments où nous aussi, nous avançons sans voir, dans l'obscurité de la foi pour nous, une obscurité qui est une obscurité normale, où nous ne voyons pas vers où nous allons. Et la solution pour sortir de cette... Pas pour sortir de la nuit, attention, on n'en sortira pas, nous, hein, pas au ciel, mais la grâce qu'il faut demander, ce n'est pas de voir. Donnez-moi des signes pour me... Enfin, oui, on peut les... Vous pouvez le demander, des signes. Jésus en envoie, bien évidemment. Mais on va rester dans la nuit de la foi. On va continuer à avancer comme un Saint Joseph qui est ballotté par les événements, qui ne voit pas du tout vers où il va, qui voit tous ses plans s'écrouler, et on avance. Et c'est dur. Et la solution, je crois que Jésus nous la donne très précisément au cœur de l'agonie, c'est lorsqu'on a l'impression d'être abandonné. Parce qu'on a l'impression d'être dans le noir, que la réponse, la nôtre, c'est de nous abandonner. Et il y a vraiment un jeu, on a dit, qu'il faudrait creuser entre l'apparence d'abandon du Père, Oh Dieu, vous n'êtes pas là, je ne vois plus rien, qu'est-ce que vous voulez de moi ? Et pas de réponse. Et cet abandonnement de Jésus au Père. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Pas vraiment de réponse. Mais la réponse de Jésus, c'est « Je m'abandonne ». Non pas ma volonté, mais la vôtre, Seigneur. C'est cette phrase que dit Jésus, au cœur de son agonie, par laquelle il triomphe de la tentation, qui n'a jamais été un péché chez lui, attention, hein, de la tentation messianique de « Franchement, est-ce que ça vaut le coup ?» Il en triomphe. Non pas en ayant compris « Ah mais si, ça vaut le coup, je vois exactement ce qui va se passer, ça, ça. » Acceptons qu'il soit comme nous, dans une certaine obscurité. Ce n'est pas en raisonnant, je vois exactement pourquoi je fais ça, pourquoi est-ce que le Seigneur a permis cette épreuve, c'est pour... Non, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas en voyant. C'est en acceptant de nous abandonner. Et alors, on reste dans la nuit, mais dans une nuit de paix et de paix avec Dieu. Et je crois que, à la fois, notre Seigneur, au moment de son agonie, répond à cette angoisse par un abandonnement à son père. Et Saint Joseph est aussi un autre exemple du gars qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, mais rien. Il s'est marié avec quelqu'un de merveilleux, ils ont fait le vœu de virginité ensemble, et voilà qu'elle tombe enceinte, un enfant qui n'est pas de lui, et voilà qu'il prépare tout à Nazareth et qu'il faut partir à Bethléem. Parce que quelqu'un a décidé qu'il fallait nous compter dans notre village de naissance. Et voilà que l'enfant est né et qu'il faut partir en Égypte. Et à chaque fois, l'ange apparaît et dit « Fais ça ». Et Joseph ne dit rien. Il ne dit pas une seule parole dans l'évangile. Un pourquoi, mais ça sert à quoi ? C'est Joseph obéit. Il s'abandonne. Et lui, il le fait dans le silence. La Vierge Marie est un peu plus loquace. Même si, pas non plus, dans cette parole, l'une des sept paroles de la Vierge Marie, qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, qu'il soit fait selon votre parole, je suis la servante du Seigneur. Bon, bah, allons-y. Voilà. Et je crois que la réponse, elle est là, d'essayer de calquer notre volonté sur celle de Dieu, d'abandonner notre vouloir à celui de Dieu. C'est l'issue de nos périodes de nuit et de doute. Et je vous dis, ça ne va pas nous donner la lumière. Mais ça va nous aider à traverser la période avec Jésus. Bon, c'est difficile, hein, je le reconnais, mais je crois que c'est l'exemple que Jésus essaye de nous montrer ici. J'achève, je conclue, sur les apôtres et cette peine de Jésus Pascal le remarque, Jésus, dans ce texte de la Passion, Jésus cherche quelques consolations au moins dans ses trois plus chers amis et il dort. Il les prie de soutenir un peu avec lui et il le laisse avec une négligence entière et en si peu de compassion qu'elle ne pouvait seulement les empêcher de dormir un moment. Jésus cherche de la compagnie et du soulagement de la part des hommes. Cela est unique en toute sa vie, ce me semble. Mais il n'en reçoit point, car les disciples dorment. Jésus cherche des amis, il a pris des amis avec lui, il en a besoin, humainement. Là, on voit un aspect de l'humanité de Jésus qui a essayé de préparer ses amis à sa passion, à commencer par la Vierge Marie. Et ses apôtres, il les prépare. Et au moment où il est dans la détresse, il a besoin d'amis. C'est très naturel, c'est très humain, je crois. Et ils ne sont pas là. Là, je crois qu'il faut... Autant Jésus, il y a des aspects très, très, très mystérieux chez lui, et c'est normal, parce que c'est un homme et un Dieu. Autant cet aspect naturel de la quête du soutien et de l'amitié, elle est là. Et lorsqu'on nous dit, voilà, passez du temps à la chapelle pour accompagner le Christ, pour être avec lui, parce qu'il nous aime, tout simplement. Que dans l'amour, même on a besoin des personnes qu'on aime au moment où on souffre, et Jésus se retrouve seul. Et en tout cas, pendant un moment, il a la celle qui va être présente tout du long dans le silence, c'est là. Simplement la compassion, en fait, de souffrir avec, c'est la Vierge Marie. Vierge Marie qu'il retrouve sur le chemin de croix et qui est debout auprès de la croix. Les quelques apôtres sont là aussi, mais il est plus ou moins abandonné. Et ben voilà, à nous de méditer là-dessus pour dire, mais comment faire pour accompagner le Christ ? Comment faire pour accompagner le Christ ? Et cet endormissement, le Benoît XVI le décrit en disant, cette somnolence est un engourdissement d'âme, une insensibilité qui préfère ne pas percevoir le mal, qui se tranquillise en se disant qu'au fond tout va bien, tout n'est pas si grave, afin de pouvoir rester aussi dans la jouissance d'une vie satisfaite d'elle-même. Une sorte de carapace qu'on s'est mis devant le mal et devant le péché, soit le nôtre ou celui du monde extérieur, qui nous empêche de compatir. Un cœur dur, on va voir ça demain, l'idée du cœur dur, à l'inverse du cœur transpercé de Jésus. Et l'endormissement, c'est ça. Et donc, ben voilà, demandons à Jésus cette capacité de compatir véritablement à sa passion, même si elle est terminée. Il faut bien voir, je termine vraiment là-dessus, il y a une intemporalité dans l'agonie de Jésus. Certes, historiquement, elle est finie, mais ce que Jésus a vu ce soir du Jeudi Saint, c'est moi, c'est mes péchés, ceux d'hier, ceux de demain. Ce que Jésus a porté dans sa passion, ce sont mes fautes. Et donc Pascal nous fait dire par là, et je pense que c'est à juste titre, Jésus est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Tant qu'il y aura un péché à porter, Jésus le portera à l'agonie. Il y a une intemporalité de l'agonie où tout le temps est réuni à ce sommet de l'histoire. Jésus est à l'agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Voilà, je pense que nous pouvons, de là où nous sommes, si nous sommes éloignés historiquement de l'agonie, nous pouvons, c'est très, très réel à mon avis, compatir avec le Christ et l'accompagner, ne pas dormir, essayer d'être éveillé pour par amitié pour lui, tout simplement. Voilà. Merci. Vous allez garder un silence. Et voilà.
Prochain rendez-vous, c'est 18h30 pour les...